France Culture.
Je crois que je n'ai pas eu le privilège, comme certains de mes amis ou de mes confrères, de rencontrer au cours de mon adolescence ou de ma prime jeunesse ce que l'on appelle vraiment des maîtres, c'est-à-dire des hommes à l'influence desquels on s'en remet les yeux fermés, qui vous modèlent même sans qu'on en ait conscience. Ça, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai eu de bons maîtres, mais je crois que mes véritables maîtres, ça aurait été mes camarades. Ça aurait été mes camarades de lycée, mes camarades de cagne. Et puis après, ça aurait été mes camarades de guerre. Cela compte beaucoup. J'ai été au contact des hommes vrais, des hommes simples, dans un milieu et à un moment où on ne peut plus mentir. Et puis après, au contact de la nature, des simples, des braconniers, des pêcheurs, des artisans, tous gens que j'ai retrouvés qui, eux aussi, en lesquels j'ai reconnu cette authenticité, cette vérité, cette ressemblance à soi-même que j'ai toujours poursuivie à travers ma carrière et à travers ma vie d'écrivain.
Maurice Genevoix, un regard à toute épreuve. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck.
Ma mémoire reconnaît encore chacun d'eux et les nomme. Maignan, Butrel, Sicot, et Brun, et Porchon, et Marchal. Tués aux éparges en février, en mars, en avril. Et les voix. Les larmes de Sicot dans la petite casemate où le génie entreposait les outils de Parc. Silencieux, sans une plainte, il pleurait. Et la gouaille de Grandier blessé qui se traîne vers le boyau, qu'une défaillance arrête devant un de mes sous-lieutenants et moi, les yeux clos, le visage soudain livide, qui crache à grand renfort un caillot rouge, gros comme une noix, rouvre les yeux sur nous, ébauche un fugitif sourire, murmure de sa voix faubourienne « Oh là là, valse lente et meurt. » Tous, tous, les morts au visage boursouflé, noircis par le soleil implacable des charniers que les Allemands en retraite avaient alignés au bord des fossés, le long des routes de la poursuite, je continue de les voir, d'entendre les gémissements, les plaintes, les blasphèmes de leur agonie. 30 000 jours, 1980.
J'ai appris aujourd'hui que le corps de Maurice Genevoix va être transféré du cimetière de Passy, où il se trouve actuellement, pour être déposé à l'École normale supérieure avant de passer au Panthéon.
Michel Bernard, écrivain.
Il y a quelque chose d'extrêmement fort, parce que ce 14 a été écrit pour partie dans l'École normale supérieure, rue d'Ulm. Il est très fort, parce que ce 14 existe en réalité à cause de Paul Dupuis, le secrétaire général de l'École normale supérieure, qui a incité, quasiment obligé, en lui en faisant une obligation morale, son élève à écrire ce qu'il avait vécu sur le front. Dupuis voulait absolument qu'il écrive aussitôt, à cause de la fraîcheur du souvenir. Et ce 14 n'aurait sans doute pas eu cette impression de vie extraordinaire s'il avait été écrit a posteriori. Sur 14, on a l'impression que chaque page est un instantané.
Sous la loque noire qui me couvre, une caoutchouc rance me colle au visage comme un tampon. Mes pieds gèlent. Je ne sens rien. Tant les cris autour de moi, tant l'entonnoir empli de nuit blafarde vacille et hurle de souffrance. Lieutenant Genevoix, mon lieutenant, il m'appelle à présent. Qu'est-ce que je peux ? Descendre ? Monter, m'accroupir près d'eux ou m'asseoir, et toute la nuit dire des mots inutiles, puisqu'il fait froid, puisqu'ils sont seuls, puisque les brancardiers ne viendront pas. Mon lieutenant, vous me couperez bien la jambe, vous. Chabot délire. Ses deux mains agrippent mon bras. Il me parle d'une voix suppliante, qu'une angoisse de désir fait trembler. Mon couteau, prenez mon couteau. Il a un bon fil. Elle tient si peu. Moi, je n'ose pas. Prenez-le, mon lieutenant. Un tout petit coup. Elle ne me fera plus mal. Ceux de 14, sous Verdun, 1916.
Alors, il a une mémoire extraordinaire. Il a un don mnémotechnique exceptionnel, qui est redoublé par le caractère, comment dirais-je, dramatique de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que sa mémoire est puissante, mais elle est d'autant plus puissante qu'il est littéralement traumatisé. Hein, et que le jeune homme qui écrit ceux de 14 est un homme dont le traumatisme est à vif. Il a traversé littéralement l'enfer. Alors on dit, toute la guerre de 14 a été horrible. Oui, Verdun, oui, c'était horrible. Mais les Éparges, c'était pire. Parce que à Verdun, on avait compris, on faisait tourner les forces. Là, son régiment, le 106e régiment d'infanterie, est resté 3 mois sur le piton des Éparges, bombardé quotidiennement. C'était absolument horrible. Il se battait à la fin, quand je dis qu'il se battait, il s'enterrait dans des trous, hein, et il tenait la position, dans un charnier. Les tranchées étaient creusées sur une terre qui avait recueilli, 3 semaines auparavant, des corps sommairement enfouis. Ils tapaient à la pioche dans les corps. Pour eux-mêmes, que les vivants puissent se protéger des obus, ils s'enfouissaient dans les charniers. C'était effroyable, l'odeur était atroce. Il faisait un froid de loup, c'était au mois de février, il neigeait, il a littéralement connu l'enfer. Et donc ce jeune homme, il reçoit cette violence d'une manière qui ne s'effacera jamais, l'empreinte ne s'effacera jamais. À 80 ans, il rêvait encore de ce qu'il avait vécu. Ça produit sur la mémoire un effet indélébile.
J'ai su ce que c'était que les cris des blessés. Je vous assure, c'est abominable. Je me rappelle qu'à la lisière du bois de Saint-Rémy, c'est là vraiment que je les ai entendus le mieux pour la première fois. Il y avait des Allemands, il y avait des Français. Et le ton dont les blessés allemands criaient vers nous « Hilfe !» à l'aide ou « Camarade Franzose !» Eh bien, la langue n'était pas la même. Mais le ton, l'accent étaient les mêmes, exactement. Plus tard, aux Éparges, alors il s'agissait de blessés de ma propre compagnie, des hommes avec qui j'avais vécu depuis 10 mois. Eh bien, c'était encore plus poignant et plus dur pour moi, car cette fois, c'était moi qu'ils appelaient, je le savais, ils m'appelaient par mon nom. Mon lieutenant, lieutenant Genevois, eh bien, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai entendu cette nuit-là, mais je me rappelle l'un d'eux, qui s'appelait Billoret, qui était pris tout à coup par une sorte de délire, qui courait le long des parois de l'entonnoir, qui criait « Donnez-moi un flingue, bande de vaches, si vous n'avez pas le courage, moi je l'aurai !» et qui à la fin venait s'affaler dans mes bras, et je sentais dans les ténèbres, sous la pluie, son sang de martyr qui gouttelait sur mes mains. Eh bien, aux voix d'homme, plaintive, gémissante ou furieuse, se mêlait dans le lointain le hennissement d'un cheval qui mourait. Et ce hennissement aigu, j'ai d'abord cru que c'était un oiseau de nuit qui ululait. Ce hennissement pitoyable, lamentable, qui était en même temps un appel au secours, eh bien, j'en ai gardé encore vraiment le son dans les oreilles.
Alors c'est durant la guerre qu'il a appris à écrire, mais vraiment durant la guerre, pas après, lorsqu'il est revenu mutilé et puis qu'il est resté 7 mois, ballotté, comme il le disait, d'hôpital en hôpital, où là il a commencé à écrire, mais il écrivait sur le front.
Jacques Tassin, écologue et biographe de Maurice Genevois.
C'est à se demander s'il n'écrivait pas même en première ligne. Il se mettait une planche mal équarrie sur les genoux, et puis avec un crayon mal taillé, tant bien que mal, ben il écrivait. Et au fil de sa correspondance avec Paul Dupuis, une correspondance très régulière, que là il a compris quelle était la puissance de son écriture. Parce que Paul Dupuis l'a beaucoup aidé à cibler et à reconnaître là où étaient ses points forts. Et il y a un moment, il lui écrit « Finalement, vous faites comme les peintres japonais qui, dans leurs estampes, procèdent avec des traits. Mais avec 2 traits, ils rencontrent un paysage, finalement. » Et Maurice Genevois, c'est exactement ça. Quand on lit ceux de 14, c'est une succession de traits avec un regard sur la vie qui est parfois bouleversant. Et ce qui est souvent aussi poignant lorsqu'il décrit la mort d'un homme que la mort d'un cheval. Il décrit cette manière dont le hennissement des chevaux pantelait sous les étoiles. Il y a un passage magnifique où il voit arriver vers lui, dans une école dévastée, un vieux cheval qui est blessé et qui vient de lui-même au contact de Maurice Genevoix, qui lui est très sensible à cette démarche. Il a cette phrase magnifique où il dit « Il flottait dans les eaux profondes de son regard un infini de stupeur triste ». On a un monde devant soi, on a le monde intérieur de ce cheval.
Lui-même est un miraculé quand même, on peut dire que...
Ah oui, oui, il revient de loin parce qu'il est blessé grièvement le 25 avril 1915. Il reçoit 3 balles de Mauser, 2 dans le bras et 1 près du cœur. La moins grave, paradoxalement, c'est celle près du cœur. Les 2 graves, c'est celle qu'il reçoit dans le bras. L'une coupe le tendon, et donc le bras va être resté paralysé, et l'autre lui sectionne l'artère. Évidemment, on est en situation de combat, très difficile. Il est évacué, mais on met du temps à l'évacuer. Et lorsqu'il arrive à l'hôpital, il a quasiment plus de sang, enfin il est exsangue. Il a été sauvé parce que le sang, en s'épanchant, au bout d'un moment, a fait caillot. Et lui a fait comme une sorte de tampon sur la plaie. Et il lui a permis de conserver le minimum de sang qui le maintenait en vie. Mais il a vraiment eu le sentiment qu'il partait, hein, il le raconte. Il a eu le sentiment qu'il passait de l'autre côté. Ça aussi, ça l'a accompagné toute sa vie. Cette expérience de la mort, ce glissement. Et il en garde le sentiment d'une très grande douceur. Il le dit dans La mort de près. Et d'ailleurs, il écrit La mort de près pour ça, pour le léguer aux autres hommes. Il leur dit, la mort, n'ayez pas peur. J'ai vu la mort. Après la souffrance, il y a une très grande douceur.
Le jour même de la contre-attaque allemande sur la colline des Éparges, j'ai été envoyé par mon chef de bataillon vers l'arrière. Je devais passer par un de ces boyaux repérés par les Allemands. Et tout homme qui passait, on peut dire qu'il était condamné à mort, il était instantanément visé, fusillé et abattu. Eh bien, c'est au moment où j'allais passer à ce tournant que j'étais arrêté par ce monceau. Ils étaient 5 ou 6 tombés en tas les uns par-dessus les autres. Je me suis donc arrêté. Et je me suis aperçu que, contrairement à mon impression première, le dernier homme abattu n'était pas mort. Il avait reçu, je pense, une balle dans la moelle épinière. Il était paralysé. Il était muet, incapable de faire un geste. Mais c'était son regard qui m'avait arrêté. Il avait une telle force impérieuse, suppliante. Et j'ai réagi devant ce gisant, j'ai réagi comme un vivant. J'ai transposé malgré moi, je lui ai dit, ben oui mon vieux, tu vois, je descends, je vais avertir en bas, je vais t'envoyer les brancardiers, ils vont te ramasser, ils vont t'emporter, tu seras sauvé. Et bien à ce moment-là, son regard est devenu presque dur. Et je me suis dit, je me trompe. J'ai transposé de nouveau et j'ai exprimé pour lui et je lui ai dit à peu près ceci, c'est à moi que tu penses? Et ce que tu veux me dire, c'est qu'il ne faut pas que je passe par là parce que je vais me faire tuer moi aussi. Eh bien, à ce moment-là, j'ai vu le regard de cet homme s'illuminer. C'est devenu quelque chose de magnifique. Et quand il a vu que grâce à lui, pour qui tout était fini, il n'avait pas d'illusion, cet homme-là, eh bien, quand il a vu qu'il m'avait vraiment sauvé la vie, eh bien, son regard, je répète, est devenu quelque chose d'indicible, de magnifique. Eh bien, ça encore, je ne peux pas l'oublier. Car je vous assure que ça a été pour moi, même à travers toute ma vie, une espèce de viatique.
Chez Genevoix, il y a évidemment une composition littéraire, mais c'est quasiment une sorte de journal qu'il tient du front. Et chaque élément qui se figure dans ce 14 est objectivable. On peut le vérifier. Il y a une parfaite exactitude du témoignage de Genevoix. Il y a chez lui une sorte de souci de vérité, d'authenticité absolue, et qui est de nature quasiment religieuse. Il a un devoir par rapport à ses camarades, aux tués, aux invalides, aux blessés, à ceux qui ont vécu l'enfer avec lui. Ce devoir, il l'assume par l'exigence de vérité. Il ne peut pas mentir, il y a des morts qui le regardent.
Le tir des Allemands s'abaissait. Leurs balles, souvent, frappaient le sol en avant de nous, soulevant, comme d'une chiquenaude rageuse, un flocon de poussière que le soleil illuminait. Il me parut soudain que quelque chose changeait, modifiait étrangement l'espace, le transmuait dans sa substance même. Ces vertigineuses abeilles qui passaient dans un vif susurrement pour se prendre loin derrière nous, on eût dit qu'à présent elles s'attardaient dans leur essor même, qu'elles nous voyaient à leur passage, que l'essaim qui venait. Et j'entendis, rendu d'un coup à une réalité sèche et dure, un choc tout proche, d'une brutalité inouïe et sournoisement feutrée à la fois, et simultanément la sensation d'un vide à mon côté, persistant, irréparable, m'enveloppa de la tête aux pieds.
Son objectif, c'est d'être exact, précis. Et son style, c'est d'abord le fruit d'une éducation. En 1913, il écrit ce mémoire de maîtrise, le réalisme chez Maupassant, et on voit très bien, entre l'écriture de Genevoix et celle de Maupassant, la filiation, hein, une filiation directe, de même qu'on la voit avec Flaubert. Influence qu'il avoue, hein, son objectif, c'est de rendre, par la sensation, le plus possible les impressions du monde. D'aller le plus profond possible dans le monde, sans utiliser de concepts, sans abstraction, en utilisant les mots du concret. Là, c'est une obligation qu'il se fait. Et chez lui, on ne trouvera quasiment jamais de termes abstraits. Aucune idée générale. Tout est sensation. Tout est relation à l'environnement. Il y a peu d'introspection chez Genevoix. Tout est lié à un univers de la sensation. Et l'esprit est exprimé par les sensations. La manière parfois dont il montre les soldats se penchant sur leurs camarades blessés est bouleversante. L'humanité s'exprime non pas par une déclaration d'humanité, mais par le geste que l'on fait pour l'autre. Un homme, il est ce qu'il fait. Il n'est pas ce qu'il pense, il n'est pas ce qu'il dit, il est ce qu'il fait. Il est dans sa manière d'être. C'est ça qui signe la vérité d'un homme. Pas ce qu'il déclare être, ce qu'il fait. Ça, la guerre lui a porté leçon là-dessus. La guerre vous apprend. La guerre dit la vérité de l'homme.
Je les ai trop regardés vivre. Je sais que celui-ci est un lâche, et celui-ci une brute, et celui-ci un ivrogne. Je sais que le soir de Somène, Douce a volé une gorgée d'eau à son ami agonisant, que Faou a giflé une vieille femme parce qu'elle lui refusait des œufs, que Chafar, sur le champ de bataille d'Arancy, a brisé à coups de crosse le crâne d'un blessé allemand. J'ai trop regardé les lueurs troubles de leurs yeux, les tares de leurs visages, tous les gestes de pauvres hommes. Je les ai regardés faire la guerre, et j'ai cru que je les voyais, peut-être que je les connaissais. Mais les yeux de Chantoiseau, cette nuit, mais eux tous qui sont là, couchés, et que je vois pour la première fois, ce sont eux. Ils respirent d'un grand souffle là. Membres mêlés, ils se donnent l'un à l'autre tout ce qu'ils peuvent donner, la chaleur de leur corps misérable. La boue, 1921.
Le premier livre de Ceux de 14, qui est composé de 5 livres, le premier sous Verdun, paraît au printemps 1916. Genevoix est immédiatement repéré. Donc Genevoix commence à bénéficier d'un début de notoriété dans le milieu littéraire. Le livre circule et il intéresse énormément. On le trouve très beau. Et il est entre guillemets en pole position pour le Goncourt. Mais on passait les livres à la censure et celui de Genevoix a été copieusement censuré. Et ce qui est retiré, c'est Genevoix dit ce qu'il voit. Les scènes de panique. Les soldats français ont peur, se sauvent. Ça, c'est retiré. Les scènes de pillage. Alors que les Allemands ne sont pas passés là. Ils pillent des maisons qui sont intactes. C'est les Français qui pillent des Français. Il raconte ces scènes. Il raconte des scènes où les soldats insultent les officiers. Il raconte des choses qu'il ne fallait pas raconter. Genevoix était ulcéré que son livre ait été censuré parce que ça obérait ses chances d'avoir le Goncourt. Thank you. après la guerre. En 1919, début de l'année 19, il quitte Paris après le traumatisme, ces scènes effroyables qu'il a vues, ce qu'il a fait d'effroyable, il a tué. La conscience d'avoir tué, il éprouve la culpabilité. Alors sa nature familière, celle de son village de Châteauneuf-sur-Loire, devient le refuge. Il démissionne de l'école normale supérieure, il quitte, il renonce à sa vocation d'enseignant. Il voulait être professeur de lettres françaises à l'étranger. Il renonce à tout ça et il retourne à Châteauneuf chez son père, veuf, et il s'enferme dans son village de Châteauneuf-sur-Loire et il écrit. On n'a pas de témoignage, c'est un homme très pudique. Sur cette période particulière des années 20, celle où il va avoir le concours, mais j'imagine que cette première partie des années 20, c'est un homme déprimé, profondément déprimé, hein, qui se trouve dans ce village, hein, coupé de ses attaches parisiennes et encore envahi toutes les nuits de faire des cauchemars, encore envahi par la guerre. Une relation paradoxale, une relation cauchemardesque et en même temps une nostalgie. Une nostalgie de l'intensité de la vie qu'il a connue à la guerre, de l'intensité de la relation avec les autres, avec ses camarades. Il en parle tout le temps. Cette proximité humaine, c'est ce qu'il qualifiait d'un mot camaraderie.
Et c'est vraiment quelqu'un de démoli qui arrive ici. Hein. Il ne faut rien imaginer de rose, parce que tout est démoli, le physique et le moral. D'avoir laissé ses camarades, cette notion de fraternité, de camaraderie, il ne l'oubliera jamais, elle va le porter jusqu'à la fin de ses jours. Mais il a besoin de revenir ici.
Anne-Marie Royer-Pantin, spécialiste de l'œuvre de Maurice Genevoix.
Et c'est à Châteauneuf, doucement, hein, c'est long, qui va réapprivoiser la vie et qui va à nouveau goûter ce rabiot, comme il disait. C'est Châteauneuf, c'est Orléans, c'est encore très local. Châteauneuf, c'est le paradis d'enfance de Genevoix. C'est ça qui lui a permis de traverser ces mois épouvantables. C'est pour ça qu'il s'en est sorti. C'est parce qu'il portait en lui ce qu'il avait déjà puisé ici, tout petit.
Il semble par instant que se fasse une accalmie, que l'on puisse enfin respirer, revoir l'espace et les étoiles. Mais déjà passe une rafale nouvelle, emportée dans le même mouvement frénétique, comme charriée par un ouragan. Mais c'est toujours le même silence calme de la nuit tiède, le même frisli de l'eau contre le flanc de la barque en dérive. Pas tout à fait les mêmes pourtant, car le miroir du fleuve s'émeut maintenant de sauts coulés, de rides furtives qui le frôlent, s'entrecroisent et s'allongent, renaissent sans trêve au fil du courant. Ce sont les chevennes, les vandoises, les ablettes qui sont montées à la surface et qui happent sans bondir, en glissant souplement, silencieusement aussi, à coups de nageoires tranquilles, les éphémères tombés sur l'eau. Et tout à coup, avec la même brusquerie feutrée, tout s'éloigne et disparaît. C'est fini. Le nuage est passé. La nuit reprend sa transparence, sa profondeur, son scintillement d'étoiles immobiles. Val de Loire, terre des hommes.
Il est immergé dans la nature. Il naît à quelques mètres de la Loire. Il grandit à quelques mètres de la Loire. Et ses parents sont des petits notables de province, notaires, épiciers, pharmaciens, mais immergés dans la vie rurale. Et il va à l'école communale avec les enfants des vignerons, des pêcheurs. Il est immergé dans ce milieu et il aime ça. Hein. Il aime les jardins, il aime courir avec les gamins de son village. Il a une enfance rurale et il aura toujours la nostalgie de cette enfance. Il va écrire un livre d'ailleurs complet sur cette enfance dans son village, il s'appelle « À l'heure de mon clocher ». Il y reviendra dans 30 000 jours, son livre en quelque sorte de mémoire. Pour lui, la campagne, c'est-à-dire cette nature humaine, la campagne, c'est son biotope. Il est chez lui, c'est là qu'il se sent bien.
J'ai vu jambler un fût et je vous garantis que c'est un spectacle passionnant. J'ai vu cercler une roue de fardier, j'ai vu forger le fer, c'était merveilleux et magnifique. J'ai pris des après-midi entières à côté d'un, compagnon horloger, je me vissais l'oculaire dans l'œil avec la virtuosité, non pas d'un dandy, mais d'un compagnon
professionnel.
Mais oui. Il y avait aussi le quartier qu'on appelait au Moyen-Âge la marchandise, les petits commerçants. Il y avait l'aristocratie, il y avait les médecins, il y avait les deux notaires, etc., etc. Et puis alors, la campagne baignait ce bourg. Il y avait les marchés des vendredis, et j'ai connu ainsi les ruraux. Au nord, c'était la forêt. Vous aviez une race, la race des bûcherons, qui avait une façon d'exister et de faire face aux problèmes de la vie en bûcheron. C'est-à-dire que c'était des hommes violents, solitaires et farouchement républicains. Ils étaient déjà des gauchistes à ce moment-là. Ces gens-là vivaient très, très, très difficilement. Il fallait qu'un bûcheron soit un as pour arriver à ses 40 sous par jour. Et on les citait en effet comme des as. Et ils avaient 5, 6, 7, 8 gosses. Tout ça est très révélateur, tout ça est très passionnant du point de vue humain.
Genevoix, il a eu la chance, lorsqu'il était enfant, de pouvoir entrer dans toutes les maisons, finalement, qui étaient autour du négoce de ses parents et de ses grands-parents. On le laissait entrer et ça lui permettait d'être au contact d'artisans, des tonneliers, des cordonniers, des maréchals ferrants. Il a ainsi découvert un sens du métier, du travail bien fait, de la précision, de l'abnégation, de l'attention au travail, du savoir-faire professionnel et finalement de cette manière aussi dont on parvient à servir ses propres outils, parce qu'il le disait même quand il parlait de son écriture, finalement je suis comme, le tel cordonnier dont il donne le nom parce qu'il a une mémoire très intacte, il dit j'ai fait comme ce cordonnier finalement qui n'a jamais cessé de planter des clous, mais de les planter comme il le fallait, mais il y a toujours de la sincérité, ne jamais tricher. Et Maurice Genevoix, lui, ne triche jamais dans son œuvre. Bon, c'est pour ça que ce 14 est aussi réputé. Tous les critiques ont admiré, et même les anciens combattants eux-mêmes ont admiré cette exactitude de ce qu'il en relatait. Mais de telle sorte d'ailleurs qu'il n'écrivait rien, je pense, sans qu'il y ait une expérience vécue derrière. Parce qu'il ne voulait pas tomber dans les fantasmagories, dans l'imagination pure. Alors certes, il laissait aller son imagination dans ses romans, mais toujours de manière ancrée avec les expériences sensibles qu'il avait eues et toujours dans le fil de la mémoire.
Sur les cailloux, l'eau mince sursaute en vaguelettes innombrables. À quoi s'accroche le soleil? C'est un fourmillement de soleil, une danse éblouissante qui s'éparpille et s'atténue, se rallume et s'irise, tournoie au ras du fleuve et brusquement s'éloigne en un redéploiement d'éventail. Sous l'eau mince, les galets roux tressaillent. Ils roulent souplement, s'effilent, se soulèvent et nagent. Une épouvante les bouleverse, les chasse en éclatements de fuite, au choc d'une pierre qui roule sur le péré, au toucher sournois d'une ombre qu'allonge et déforme sur l'eau, derrière les épaules d'un pêcheur, le soleil crépusculaire. La boîte à pêche, 1926.
C'est une Loire à portée de main. Voilà, c'est ça qui est merveilleux, vous pouvez le voir d'ailleurs, quand on marche là, on a la Loire à portée de main. Et c'est là où il va venir apprendre à pêcher. Et pour moi, c'est très important que Genevoix soit un pêcheur. Parce qu'il a développé cette qualité d'observation, cette patience, ce regard qu'il a sur les choses pour aller au-delà des apparences. Ça reviendra très souvent, ça, dans son œuvre. Donc ici, il vient chercher le matériau. Il faut bien être de quelque part, disait-il. Et il est vraiment l'homme de la Loire, l'homme de cette juste mesure et de cet équilibre de la langue.
Et là, donc, en fait, c'est l'endroit où il venait souvent marcher, c'est ça?
Il a toujours, jusqu'à ses derniers jours, il a eu besoin de marcher. À la fois pour se retrouver lui-même, parce que c'est un solitaire fraternel. Donc se retrouver lui-même au cours de ses longues marches, pour lui, c'est essentiel. Et puis cette immersion permanente dans la nature, qui est la source même de son écriture, de son inspiration.
Ce qui est particulier, c'est qu'il s'intéresse énormément aux gens modestes, aux simples. Il n'est pas du tout impressionné par les hiérarchies institutionnelles. Pour lui, c'est lié à son éducation, un pêcheur qui ne loupe jamais son coup, comme celui qu'il décrit dans La boîte à pêche, c'est un grand homme. Tout homme qui sait faire quelque chose, qui est habile en quelque chose, est un homme de valeur. Le regard qu'il pose sur ses soldats, sur le front, est déterminé par cette appréciation. Et il s'émerveille, lui l'intellectuel, de voir l'habileté de ses soldats, à construire un abri, à piéger des animaux entre le front. Il y a un personnage de braconnier qui est assez extraordinaire, il ne sait ni lire ni écrire, mais il part à la chasse avec son fusil de guerre. Et il revient avec du gibier, il partage avec ses camarades. Ça l'émerveille. Ces hommes savent faire quelque chose. Ils ont une connaissance. Il sent que certains d'entre eux ont un rapport avec la nature plus fort que le sien, plus vrai que le sien, font davantage corps avec la nature, ce qui est pour lui la vertu suprême. Donc à la fois, c'est un intellectuel de haut niveau. Quand il sera secrétaire perpétuel de l'Académie française, ce sera un secrétaire perpétuel très actif, fait rentrer dans l'Académie française des écrivains de valeur, c'est lui qui fera rentrer Monterland, Morand, et en même temps, pour lui, un menuisier qui sait travailler le bois, d'une certaine manière, c'est sans doute supérieur à un intellectuel. Et l'écrit, peut-être, éloigne de la relation directe avec la chose. Il y a toujours cette nostalgie chez lui. Je suis écrivain, je suis un intellectuel, mais au fond, peut-être que ça m'éloigne de la chose elle-même. Je crois que véritablement, les deux grands héros de Genevoix, c'est Rabolio, le braconnier. Les pages sur Rabolio sont magnifiques. C'est une humanité en symbiose avec son environnement. Et puis Najar, le héros de la boîte à pêche, le grand pêcheur de la Loire. Parce qu'ils sont en symbiose, comme le cerf se trouve en symbiose avec la forêt. Najar, sur la Loire, avec sa canne à pêche, il est en symbiose avec le fleuve, avec les poissons. Rabolio, avec ses pièges, ses marches dans la forêt, il est en symbiose avec les arbres et avec les animaux qu'il piège pour les manger.
Depuis 3 jours qu'il promenait ses guêtres sur les terres de Monsieur le Comte, Rabolio n'avait eu garde de tenir ses yeux dans sa poche. Oh, comme cela, sans en avoir l'air. On peut bien repérer les grillages en bonne place, capter d'un sur-regard, comme d'un coup de filet, les renseignements utiles qui viennent à vous de toutes parts, qui montent des labours et des friches, des étangs, des prés et des bois. Rabolio, sans fatigue, accroissait sa richesse. Ce n'était pas une richesse consciente d'elle-même, un amas ordonné dont il put dresser l'inventaire, mais une richesse plus secrète et plus sûre, tant elle s'était mêlée à lui. À sa mémoire toute sensorielle, il aurait demandé vainement des souvenirs décantés et limpides, quelque chose comme un plan d'éther qu'il s'était annexé. Ses yeux, son nez, ses mains se rappelleraient pour lui. Ses jambes, qui par endroits avaient foncé dans le sable cendreux, glissé dans une coulée de glaise, raclé les épines des ronciers, son corps multiple et sans cesse vigilant, et la mémoire fidèle de son corps. Rabolio, 1925.
Quand on découvre Rabolio, mais c'est terrible, c'est une histoire terrible. Rabolio, on sent que la guerre est pas loin, hein, parce que Rabolio, c'est très violent. Il a fait la guerre, Rabolio. Comme Genevoix, il ne peut plus revenir dans la vie telle qu'elle est, telle qu'on lui impose. Il a besoin de liberté. Genevoix était pareil. Quand il est guéri et qu'il revient à Normal Sup, on lui demande de passer son agrégation, comme si rien ne s'était passé. Or, la vie a été bouleversée de fond en comble. Il refuse. Il refuse et il va prendre le chemin de la liberté qui est nécessaire à son écriture. Bien, Rabolio est comme ça, mais il est allé jusqu'au bout, lui. Il est allé jusqu'au bout, il n'y a pas eu de concession. Et la liberté, la soif de liberté, va peu à peu le mettre complètement hors de la société.
Braconnier
jusqu'au bout, puisque ça se termine par un crime. Donc, mais il y a des tas de livres qui se terminent par des crimes chez Cyril, Les mains vides, tous ces livres-là où sont hantés aussi par la mort. Et on retient évidemment le chant de la Sologne, le chant, les images de la nature. Mais il faut penser que la nature, elle est ce qu'elle est. Elle est ni bonne ni mauvaise chez Genevoix. Elle est. Pas d'anthropomorphisme, jamais, jamais, jamais.
Rabolio, histoire d'un braconnier sur la Loire, ça sort en plein milieu des années folles. Hein. Le grand écrivain français de l'époque, c'est Paul Morand. Bon, Rabolio, c'est pas vraiment cet univers. Hein. C'est la période des surréalistes. Donc, il est cantonné écrivain du terroir, et de ce terroir particulier qui est la Sologne et le bord de Loire. Ça ne l'affecte pas beaucoup, parce qu'il est effectivement amoureux de cette terre. Il se trouve à l'aise, finalement, dans cet univers. Il a certainement été déçu qu'on n'aille pas au-delà de cette étiquette, hein, et qu'on ne lise pas dans toute leur profondeur ces livres. Profondeur qui a un caractère métaphysique, hein, la relation au vivant. C'est un homme qui déteste les abstractions, mais le fait de ne pas aimer les abstractions et les idées générales n'empêche pas d'être profond. Et il était désolé qu'on ne s'en aperçoive pas.
Si ce n'était le crissement feutré des roues de la voiture sur le sable du chemin, le silence serait celui d'un autre monde, peuplé seulement du ululement d'une chouette ou du claquement un peu brusque des ailes d'un ramier à la cime des pins. Et soudain, au sortir d'un tournant en angle droit, la maison apparaît, éclairée même sous la nuit la plus noire par le contraste entre le bois qui la met à l'abri du monde extérieur et la terrasse sablonneuse qui l'entoure. À ses pieds, en contrebas d'un talus d'herbes et d'arbustes sauvages auxquels se mêlent des buissons de roses anciennes, la Loire, large, sereine et souveraine, coule sous les étoiles à perte de vue. Les Vernelles.
Nous sommes aux Vernelles, donc la maison que Maurice Genevoix a acquis à la fin des années 20, grâce à son prix Goncourt, Rabolio.
Julien Larère Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix.
Et nous sommes devant chez lui, devant la porte.
Et qu'est-ce qu'elle représentait, cette maison, pour lui, à ce moment-là de sa vie?
Je crois que cette maison, enfin, il l'a écrit lui-même dans 30 000 jours, donc son dernier livre. Il explique qu'en fait, les Vernelles, c'est un peu le prolongement de Châteauneuf. Et que tout ce qu'il avait découvert à Châteauneuf, que tout ce qui lui avait plu à Châteauneuf, en fait, il l'a retrouvé ici comme renforcé. Comme si, finalement, toute sa vie avait été une préparation aux Vernelles. Et il a toujours eu un lien très fort avec Châteauneuf-sur-Loire, ça il l'a dit, il l'a répété. Il n'a cessé de dire qu'il était débiteur de Châteauneuf-sur-Loire. Quand il achète cette maison, donc on est en 1927, il a fini d'écrire son œuvre de guerre, mais la vie n'a pas encore été extrêmement souriante pour lui. Il est encore un grand traumatisé de la Première Guerre mondiale. Et quand il arrive ici, on sent que c'est un peu une revanche sur la guerre. Et il y a quelques photos qui nous permettent de le dire, puisqu'il est totalement mutilé. Il a le bras gauche qui est totalement invalide. Et on voit des photos de lui, notamment quand il construit le bureau sur les échafaudages. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'infirme, finalement, qui peut encore faire quelque chose. Et donc, je crois que cette maison, d'abord, elle a été ça pour lui. Le moyen de revenir au monde et de s'asseoir dans le monde qu'il avait décidé de vivre.
J'avais des amis dans mon jardin, une famille de hérissons, le père, la mère, les hérissonneaux, qui tous les soirs, ponctuellement, à 7 heures, venaient réclamer leur part de lait et leur débris de viande. Et l'hiver, comme il faisait froid, je n'avais qu'à ouvrir la porte du vestibule et un par un, en ribambelle, les hérissons entraient dans la demeure de l'homme et les festins, les agapes avaient lieu dans mon vestibule. Et puis, quand c'était terminé, je rouvrais la porte et avec une docilité, une gentillesse admirable, toute la famille sortait et rentrait dans la nuit de dehors. Mais j'ai eu comme ça beaucoup d'amis. Et alors tout cela entretenait autour de la maison un frémissement perpétuel, enfin une sorte de présence vivante que, naturellement, j'ai retrouvée après la guerre. Et qui m'ont permis, dans une certaine mesure, de sentir un peu l'exiguïté ou la vanité, et surtout le caractère éphémère de ces énormes événements, naturellement, qui nous importent, qui nous déchirent, mais qui, au regard de la vie d'une maison, d'un jardin, passent, vous comprenez, et ne reviennent pas. Alors, aujourd'hui, tout naturellement, cette maison s'est mise à retrouver mon rêve originel, si vous voulez, Et si vous me demandiez à quoi tiennent, enfin les raisons qui me font m'attacher à cette maison qui est la mienne, je vous dirais qu'il n'y en a pas, sinon celles qui tiennent dans un seul mot, eh bien mettons que ce soit le mot « amour ».
Il n'a jamais cessé de revenir sur lui-même, de revenir sur la guerre, mais de revenir aussi sur cette part d'enfance qu'il avait conservée en lui et qu'il ne voulait pas perdre. Parce que pour lui, quitter sa part d'enfant, c'était être perdu, c'était passer à côté de la vraie vie, si on peut dire. Et il a tenté de le retrouver en remettant ses pas dans sa propre enfance, puisqu'il a cherché une maison qui n'était pas très éloignée de la maison de ses parents, à Vol-l'Oiseau, je ne sais pas, ça doit faire une quinzaine de kilomètres, pas plus, avec les mêmes visages, tels que le visage de la Loire, qui peut-être était aussi le visage de la vie et le visage de sa mère qu'il avait perdu. Donc des fondamentaux, il parlait de permanence, de fontaine, de constance. Et il évoquait cette manière aussi dont les voyages le ramenaient toujours à lui-même, à son méridien, qui était ce qui était devenu, alors peut-être de manière un peu métaphorique, mais les Vernelles, sa maison du Loiret, qui plus qu'une maison était un endroit où il retrouvait l'ensemble de son être, mais au-delà de lui-même, en relation avec la Loire qu'il écoutait couler. Il y a des pages magnifiques où il décrit cela, ces instants où il est à sa table de travail, et puis il a les fenêtres ouvertes, et il écoute la Loire.
L'aube se leva, terreuse, sur la Loire couleur de boue. À perte de vue, elle charriait les moutons d'écume, d'une pâleur sale sur la teinte plus lourde des eaux. Le ciel semblait refléter la Loire, boueux comme elle, engluant à ses nuées la clarté pauvre qui sourdait d'en haut. Le vent soufflait toujours. On le voyait accourir de loin. Par grandes risées venues du sud-ouest, elle chassait les moutons devant elle, les culbutait en houles confuses de troupeaux, éparpillait autour d'eux de laineux flocons d'écume. Et la pluie qui tombait les criblait de ses gouttes, y creusait comme des trous d'éponge, les faisait enfin s'écrouler mollement sur l'eau pesante. Rémy Desroches, 1922.
On va monter dans le bureau. Je ne l'ai pas ouvert encore. Hop.
Alors j'aime ce bureau parce que c'est là que je vis surtout, et qu'en définitive, cette présence d'un homme de lettres un peu maniaque, laborieux, contemplatif, eh bien, ce bureau surtout ressemble parce que il est ouvert de toutes parts sur les horizons, et puis parce que lorsque, par exemple, un peu fatigué d'écrire ou désireux de rêvasser, je vais m'allonger sur le divan, eh bien, je vois au plafond, vous savez, comme dans une chambre d'appareil photographique, même si je ne vois pas la Loire, je la vois quand même couler. Le soleil se reflète sur l'eau et provoque des reflets à facettes, des reflets mouvants qui répètent exactement les ondulations du courant et qui, à travers les feuilles des arbres, vont frapper le plafond au-dessus de ma tête, et je n'ai qu'à regarder cet espace de plâtre nu pour voir littéralement la Loire couler. Et voilà pourquoi, entre autres raisons, j'aime mon bureau.
Voilà, bah par exemple ce livre qui est le seul livre que mon grand-père ait toujours gardé sur son bureau, enfin toujours gardé en tout cas depuis 1949, qui est la date de la première édition de Ceux de 14, puisqu'en fait Ceux de 14 c'est la réunion en un seul volume des 5 livres qu'il avait écrits sur la Première Guerre mondiale. Donc ce livre sort en 1949, il n'est jamais... Il est toujours resté plutôt sur son bureau. Et c'est vraiment le seul livre. Et à l'intérieur, mon grand-père avait mis la liste de correspondance entre les personnages du livre avec leur véritable identité. Et ça, il l'a toujours gardé sur ce coin de bureau, comme si il avait ce besoin de rester en communion et en pensée avec ses frères d'armes. Et moi, j'ai envie d'y voir quand même une forme de signe, une permanence de ce souvenir. Et puis, il y a autre chose qui est tout aussi symbolique, c'est ce petit pot de terre des éparges, qui lui aussi est resté, alors c'est vraiment de la terre des éparges à l'intérieur, et ce petit pot de terre des éparges est resté aussi toujours dans son bureau, parce que pour lui, le souvenir de ses frères d'armes était absolument essentiel, et le tenait dans la vie en quelque sorte.
L'expérience qu'il a de la mort à la guerre inspire directement, immédiatement, son écriture de la mort, pour ce qui concerne les animaux, par exemple, dans la dernière Harde, lorsqu'il décrit la mort de la biche, il prend le point de vue du petit de la biche. Tout d'un coup, la biche est frappée par une balle du chasseur, et le petit est tout seul. Et le petit sent un froid près de lui. C'est exactement le mot qu'il utilise au premier tué près de lui. Un froid. Il y avait une présence chaleureuse, et tout d'un coup, il y a un froid. L'homme est couché par terre, une dernière ruade, des nerfs, et il est mort. Le froid. C'est les mêmes mots pour les animaux.
La biche était dans le fossé, allongée, les pattes jointes deux à deux, et parcourue d'un léger frémissement. Elle avait à l'épaule, dans l'épaisseur des muscles, un trou rouge où le sang bouillonnait. Lorsqu'elle aperçut son petit, elle tordit lentement le col, souleva sa tête vers lui en un geste douloureux et tendre. Mais sa tête ne s'éleva qu'à peine, retomba aussitôt sur les feuilles mortes et la mousse. Le hare vit ses yeux se voiler, se ternir d'une ombre bleuâtre qui noyait très vite leur regard. Cette ombre les prit tout entier, ouverts encore, mais vides, affreusement absent désormais. Alors le hare approcha ses naseaux du trou rouge et flaira le sang qui coulait. Le hare se releva tout droit, tendit le cou, fronça le mufle dans un rictus qui lui découvrit les dents. Il tremblait de tout son corps, secoué par un frisson continu, d'une violence profonde et terrible. Et il se mit à gémir à pleine gorge, à pousser par l'espace une lamentation meuglante, une bramée interminable de peur et de désolation. La dernière Harde, 1938.
Et ce qui l'a toujours intéressé, finalement, ce sont les manifestations intemporelles. C'est ce qui transcende le temps. Ça, on le comprend de quelqu'un qui a perdu tant de monde autour de lui. Et le reste du vivant, le vivant sauvage, lui, ne bouge pas. Est toujours dans l'intemporalité, dans l'éternité. Et Maurice Genevoix, sans aucun doute, assouvissait sa quête dans cette convivialité avec les êtres vivants, dont il explorait le regard. Ça, c'est assez troublant d'observer combien ses regards avec des êtres vivants parsèment l'ensemble de son œuvre. Moi, je pense, en disant cela, au regard du cerf rouge de la dernière Harde, au moment où le piqueux va le servir et que le cerf rouge lui-même se pend sur la dague. Et il y a ce croisement de regards et cette continuité du vivant qui tient du sensible. Et Maurice Genevoix avait très manifestement, sinon cette conviction, du moins ce sentiment que la vie est une et que la vie est poreuse d'un être à un autre. Par la voix du sensible, non pas par la voix de la raison qui segmente, qui maintient à distance, mais par la voix du sensible.
Cet échange de regards, c'est constant chez Genevoix. Et chez lui, il a une réflexion extrêmement profonde, il a écrit Les Bestiaires. Il les a écrits pour la radio. C'était des textes qu'il lisait à la radio, à la fin des années 60. Ça a fait trois livres, où chaque texte est consacré à un animal. Et à un moment donné, il parle du Grand Arfon des Neiges. C'est une expérience qu'il a eue au Canada. Il visite un zoo et dans l'une des cages, il y avait le grand harfang des neiges. C'est-à-dire que c'est une énorme chouette qui fait plus d'1 mètre de haut, blanche.
Et Maurice Genevoix était fasciné, parce que lui, il connaissait ses chouettes du bord de Loire, et là, il voyait un animal gigantesque. Et il est frappé par le regard de l'animal, la beauté des yeux de ce harfang des neiges, leur couleur dorée. Et il le fixe, et le grand harfang des neiges soutient son regard et le regarde. Et il dit qu'il avait le sentiment d'être regardé depuis le fond de la préhistoire. Ces yeux-là, de cette grande chouette, viennent du fond des âges. Ça le fascine totalement. Tout d'un coup, c'est une sorte d'abîme des temps qui s'ouvre en regardant un animal.
Ce harfang, je l'avais contemplé longtemps captif à Charlebourg, près de Québec. Il a des yeux inoubliables, démesurés. Deux abîmes sombres d'un brun profond, ardent, où le noir des pupilles irradie un regard fixe, intense, pénétrant comme un regard humain. Aussi blanc et plus blanc que les frais, hiératique et debout, colossal, il attachait sur nous le poids de ce regard, et je ne sais quelle gêne m'oppressait, grandissait, me retenait comme malgré moi contre les barreaux de sa cage. Cette puissance, cette blancheur, ce regard et ce cri, quelle créature, née de quelle fantaisie, de quel délire sublime de l'inépuisable vie.
Je voudrais rappeler tout de même qu'il y a eu en quelque sorte presque trois périodes dans la vie de Maurice Genevoix.
La revue des revues de Roger Vrigny, 1980.
Il y a eu le Maurice Genevoix qui témoigne, jeune homme, donc de son expérience de la guerre, qui entre, non pas dans la carrière des lettres, mais dans un métier des lettres comme romancier et qui connaît un succès avec notamment le prix Goncourt. Et puis il y aura, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, un deuxième Maurice Genevoix qui devient beaucoup plus personnage officiel à l'Académie, secrétaire perpétuel. Et il y aura sans doute un troisième Maurice Genevoix, celui qui, ayant quitté tous ces hochets de la société en quelque sorte, et accomplit une carrière extraordinaire en quelques années auprès du public. Il devient une figure populaire de la France. Alors, quel est votre sentiment sur ces indications que je donne, Jean d'Ormesson?
Vous avez très bien dit, hein, une des caractéristiques essentielles de Genevoix, qui était ce charme extraordinaire. C'était un homme qui, à la fin de sa vie, avait en effet pris des allures de sage. Il y avait une sorte de vieille sagesse paysanne, une sorte de sagesse souriante dont on a pu dire qu'elle annonçait les écologistes, ce qui est vrai. Et c'est assez amusant de voir une espèce de contradiction, puisqu'on ne pouvait pas être plus officiel que Genevoix. Et en même temps, il est l'annonciateur des écologistes.
Et alors, il se trouve qu'aujourd'hui, enfin, ces choses vivantes auxquelles j'ai consacré mon œuvre, en définitive, et ces choses saines, encore une fois, il y a ça aussi qui me préoccupe.
Maurice Genevoix, 1972.
Eh bien, ces choses-là, on s'aperçoit qu'on les a trop négligées. On sent très bien autour de nous un mouvement d'opinion, n'est-ce pas, de gens qui se disent, après tout, les techniques, les bagnoles, les gaz dépôts d'échappement, les embouteillages, ces processions du dimanche, on en arrive quand même au bout, n'est-ce pas, assez vite, on en épuise assez vite les jouissances. Eh bien, peut-être qu'on a eu tort d'oublier, par exemple, la pureté d'une matinée d'été, peut-être qu'on a eu tort d'éventrer des forêts ou de trop pourchasser et de tuer des espèces animales. Il n'y a plus les mêmes chants d'oiseaux, il n'y a plus de martinets autour des ponts sur les rivières, il y a des quantités de choses de cet ordre-là. Alors il y a un mouvement d'opinion, il y a un retour vers ces réalités intemporelles, ces réalités éternelles, qui font que, sans l'avoir voulu, moi je n'ai pas bougé, vous comprenez. Mais l'opinion, le vent, si vous voulez, souffle du côté de ces choses qui m'ont préoccupé, qui m'ont retenu, si bien que je suis un petit peu dans le vent, dans le courant de l'actualité. Et pour un homme qui arrive au terme de sa vie et de son œuvre, eh bien, c'est un sentiment réconfortant.
Dans les années 1970, Maurice Genevoix ne s'intéressait pas à l'écologie, ni dans sa dimension scientifique, ni dans sa dimension politique. Lui nous proposait de renouer avec le vivant. Parce que C'est ce dont l'écologie nous parle de plus en plus aujourd'hui, finalement, c'est cette perte de contact, c'est cette déconnexion qui est notre plus grand malheur. Il y en a qui considèrent que la pire des extinctions, c'est bien l'extinction de ce besoin de contact avec les êtres vivants et qui considèrent que c'est parce qu'on a perdu cela qu'on a été capable de malmener l'ensemble de la nature. Et lui, finalement, quand il était à l'Académie française et quand il disait que c'était bien une civilisation qu'il s'agissait de défendre, et une culture très simple de la manière d'exister, d'être en consonance avec son terroir, qu'il avait éprouvé lui-même au contact de ces êtres simples, que sont aussi des pêcheurs comme Najar dans la boîte à pêche, ou les piqueux qui conduisent les chiens dans les chasses à cour, qu'il a rencontré et qu'on retrouve mis en scène dans La Dernière Horde ou dans La Forêt perdue, et d'autres intercesseurs qui lui ont appris à regarder, qui étaient tous un peu fous. Dans Forêt voisine, il y a un beau passage où Brou, qui est aussi un piqueux, il dit « Oui, oui, je suis capable de m'abandonner dans la forêt, de dormir et d'être en... » Alors, il le dit pas comme ça, mais d'être en communion avec les arbres, avec les écureuils, etc. Mais il conclut « Mais de cette folie-là, je ne veux pas guérir. » Et Maurice Genevoix jouait un peu avec cette folie-là et savait en rendre compte. Il y a un peu de magie, il n'est pas très loin de la magie dans l'ensemble de son écriture, pour mieux rendre compte, je pense, de cette proximité. Cette proximité qui apparaît au moment où il faut pour cela quitter la raison. Il faut quitter le brouhaha de nos pensées habituelles pour se laisser être, tout simplement. Encore une fois, c'est très simple, mais ça nous est tellement difficile pour nous, hommes qui vivons dans des espaces urbains, retrouver cette simplicité de l'être. Ça nous est difficile, mais c'est ça que propose l'œuvre de Maurice Genevoix. C'est ça que propose aussi Maurice Genevoix, l'écologiste. C'est pas une écologie théorique, fantasmée ou planifiée. C'est une écologie très simple. C'est une écologie de l'être, une écologie de l'expérience sensible.
Maurice Genevoix, un regard à toute épreuve. Avec Anne-Marie Royer-Pantin, Michel Bernard, Jacques Tassin et Julien Larrère-Genevoix. Lecture, Bernard Gabé. Archivina, Anne Brulant. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck.